RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, les charges qui pèsent sur le journaliste Olivier Monodji allégées au Tchad. Mais notre confrère reste maintenu en détention plus de 3 mois maintenant après son arrestation. Le travel ban américain qui fait réagir au Tchad et au Congo-Brazzaville notamment. Les autorités sont quelque peu surprises et elles ont voulu savoir pourquoi leurs ressortissants ont depuis lundi interdiction de se rendre aux États-Unis. Les réactions sur la scène politique camerounaise également, elles continuent d'affluer après le retour agité de l'opposant Maurice Kamto ce week-end. Une commission d'enquête réclamée à l'Assemblée nationale du Gabon. Certaines voix dénoncent une opération d'éguerpissement à Libreville ordonnée à la hâte alors qu'une procédure judiciaire est en cours dans ce dossier. La caravane pour Gaza, partie lundi de Tunis pour rejoindre la marche mondiale en faveur des Palestiniens, actuellement en Libye. On suivra son parcours ensemble. Et puis au Kenya, l'autopsie d'Albert Ojwang contredit la version de la police. Ce jeune homme qui est décédé samedi dans sa cellule après son arrestation. Les forces de l'ordre affirment qu'il s'est cogné la tête contre un mur, mais les médecins légistes penchent plutôt pour une agression. Arrêté le 5 mars au Tchad, le journaliste Olivier Monodji reste donc en détention, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, correspondant de RFI à N'Djamena également. Il a toutefois vu les charges qui pèsent contre lui allégées par le juge d'instruction qui enquête sur cette affaire depuis maintenant 2 mois. Le procureur général avait décidé de poursuivre Olivier Monodji, notamment pour atteinte et complot contre l'État. Mais le juge a requalifié en entretien avec les agents d'une puissance étrangère, Esdras Dikoumana.
Le procureur général avait décidé de poursuivre Olivier Monodji, notamment pour attentat et complot contre l'État, des crimes passibles de 20 à 30 ans de prison. Le juge d'instruction a décidé de disqualifier ces charges avant de l'envoyer devant le tribunal correctionnel et de simple police pour répondre de fait, je cite, d'entretien avec les agents d'une puissance étrangère et des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad ou ses intérêts économiques, fin de citation. Ce délit est punissable d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans, explique Maître Alain Diliam. Problème, selon cet avocat, le juge d'instruction ne précise pas dans son ordonnance de quelle puissance étrangère il s'agit, ni l'identité de ses agents, ainsi que la preuve de leur qualité d'agent d'une puissance étrangère, seule preuve matérielle avancée, insiste l'avocat, un public reportage toujours en ligne pour lequel la Hama, l'organe de régulation des médias au Tchad, n'a rien eu à redire à l'époque et qu'il a qualifié de propagande, ce qui ramène l'affaire à un simple délit de presse, dit-il. Nous faisons diligence pour que le tribunal statue rapidement sur ce cas. En attendant, regrette Maître Ndiliam, le juge d'instruction a décidé de maintenir en détention préventive Olivier Monodji ainsi que ses collègues poursuivis dans la même affaire que lui.
Les explications d'Esdras Dikoumana, un autre dossier que vous suivez peut-être sur RFI, car il ne cesse de faire des vagues depuis son annonce par la Maison Blanche. Le travel ban, entré en vigueur lundi et qui interdit formellement aux ressortissants de 12 pays de se rendre sur le sol américain. 7 pays de cette liste sont africains, rappelons-les, le Tchad, le Soudan, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Somalie et la Libye. Et certains, parmi les concernés, ne cachent pas leur étonnement. À N'Djamena et à Brazzaville, notamment Pierre Firsion, les autorités ont cherché à comprendre les motivations d'une telle décision.
Les autorités congolaises ont convoqué Eugène Young, l'ambassadeur des États-Unis dans le pays, le jour de la publication de la liste. Il avait à peine plus d'informations que nous, s'indigne un responsable congolais. Officiellement, il est reproché au Congo-Brazzaville et au Tchad une proportion importante de visa overstay. En clair, leurs ressortissants auraient trop tendance à rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa. N'Djamena a eu la confirmation que c'était là le nœud du problème, mais les autorités tchadiennes jugent la mesure disproportionnée et injustifiée, car selon une source gouvernementale, cela ne concerne que 418 personnes qui n'ont pas quitté les États-Unis à temps, selon les statistiques de 2023. Ce qui nous gêne, c'est pas la décision en elle-même, affirme un officiel tchadien, mais c'est la mauvaise publicité que cette décision fait pour notre pays. Brazzaville cherche également à corriger son image si injustement écornée, selon les mots d'un ministre. Mais les autorités congolaises n'entendent pas pour autant céder aux pressions de Washington. Personne n'ira au mur des lamentations à cause de ce ridicule ban, assure ce même responsable. durable. N'Djamena n'entend pas non plus se laisser intimider. En représailles, le pays a décidé d'interdire l'entrée des ressortissants américains sur son territoire.
Pierre Firsion, les réactions nombreuses au Cameroun après le week-end agité de l'opposant Maurice Kamto, président du MRC, candidat déclaré pour la présidentielle d'octobre. Il est rentré au pays après une tournée en Europe et il a eu maille à partir avec les forces de l'ordre qui ont encerclé durant 48 heures son domicile de Douala et le siège de son parti où l'attendaient pourtant des responsables locaux et des milliers de partisans. Maurice Kamto a finalement quitté Douala pour Yaoundé, on vous l'a expliqué hier sur RFI. Mais les commentaires continuent d'abonder, notamment un tweet du président Biya qui n'est pas passé inaperçu, Polycarpe Samba.
Sur le réseau social X, le président Paul Biya a remis au goût du jour une publication qu'il avait déjà faite en 2020 sous forme interrogative. Est-il nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités publiques est assuré par les urnes et non par la rue? Les médias ou les réseaux sociaux a-t-il notamment retweeté dans un timing qui semble coller aux péripéties liées au retour de l'opposant Maurice Kamto au Cameroun? En plus de ce tweet de son président national, le RDPC s'est lui aussi, hier en début de soirée, fendu d'un communiqué signé de son secrétaire général Jean Kouété. Le parti présidentiel y dénonce, sans les nommer, les partis politiques qui travaillent, citation, à la préparation d'une insurrection meurtrière et sacrificielle qui prépare l'opinion à des affrontements communautaires et intertribaux. Dans le reste de la classe politique, notamment de l'opposition, les événements de Douala sont condamnés de manière quasi unanime, mais dans l'autre sens, quelques-uns des candidats déclarés à l'élection présidentielle ont dénoncé dans les mêmes termes ce qui est qualifié d'atteinte grave à la liberté d'aller et de venir en référence au double blocus de 48 heures en sa résidence et au CGMRC dont Maurice Kamto et son parti ont été victimes à Douala. Polycarpe Samba à Douala, RFI.
Un dossier qui prend une tournure politique au Gabon. L'affaire des déguerpissements dans la zone dite Plaine Oreti, dans la capitale Libreville, une zone proche de l'Assemblée nationale. Mais plusieurs formations comme le parti Union Nationale ainsi que des membres du Parlement de Transition et d'autres acteurs politiques s'étonnent de la brutalité et du caractère très soudain des expulsions et des destructions de domicile alors qu'une affaire judiciaire est pourtant ouverte. En parallèle, ces voix réclament donc d'urgence la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. François Mazé.
Plus d'une semaine après le passage des tractopelles du génie militaire, les débris des habitats n'ont pas été déblayés et certaines familles dorment à la belle étoile. Résident de l'arrondissement, le député Lionel Ngonga ne comprend pas l'empressement de l'État alors que la procédure devant la justice n'était pas terminée.
Le tribunal a rendu une décision qui demande d'apporter le titre foncier du dit quartier, d'effectuer une expertise contradictoire. Donc le tribunal a rendu une décision provisoire. Malheureusement, on constate que le gouvernement a directement procédé aux destructions des biens. J'ai rencontré plusieurs familles en larmes qui n'étaient même pas informées de la situation des nouveau-nés à la belle étoile avec leurs parents.
La liste des personnes indemnisées n'a pas été publiée, regrette le député. Ancien porte-parole de la présidence, Wally Bongo, Ike Ngwoni, lançait hier son parti politique, Les Engagés. Il invite à ne pas opposer la nécessaire modernisation de Libreville et le respect de la dignité des populations.
Il faut clairement un plan d'aménagement cohérent pour les 20 prochaines années. Maintenant, il faut respecter les citoyens dans la méthode. Transformer une ville, oui, mais pas en humiliant les gens. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dès maintenant, c'est mettre en place un comité de suivi indépendant avec des représentants des quartiers pour s'assurer de la transparence et de la justice dans les opérations qui sont menées.
Le gouvernement s'est justifié par la réduction des embouteillages, des inondations et la lutte contre le mal-logement. À terme, le site doit abriter une cité administrative et le nouveau boulevard de la transition.
François Mazé, une marque de soutien fort envers les Palestiniens. Une caravane de la solidarité partie lundi de Tunis vers Gaza est actuellement en Libye. Elle va passer 3 jours sur place pour se diriger vers les frontières égyptiennes en attendant une autorisation pour entrer dans le pays des pharaons et ainsi rejoindre sur place d'autres délégations qui participent à la marche mondiale pour Gaza. Lilia Blaise suit toutes ces étapes pour nous.
Près de 1200 personnes ont passé le poste frontalier tuniso-libyen de Ras Ech Dir dans la nuit de lundi à mardi, après avoir traversé le pays escorté par plusieurs manifestations de soutien dans les différentes villes tunisiennes qu'ils ont traversées. L'engouement de la caravane pour Gaza, initié par le collectif citoyen tunisien Soumoud, a suscité un large mouvement de solidarité en Tunisie, mais aussi dans le reste du Maghreb. Postée à Zaouia pour la nuit du mardi, la caravane prendra la route de Misrata mercredi. Le Croissant Rouge libyen a déployé une aide médicale et psychologique pour les voyageurs, qui se disaient tous épuisés mardi soir, mais heureux d'avoir pu effectuer une partie du chemin. Ils devraient être rejoints par des Libyens en partance de Tripoli, l'étape la plus importante présidente reste l'accès à l'Égypte pour rejoindre le Caire le 12 juin afin d'y retrouver les autres délégations d'une trentaine de pays, puis partir tous ensemble pour tenter de joindre la ville d'El Arish dans le Sinaï et Rafah le 15 juin, un mouvement global qui souhaite briser le blocus israélien sur les convois humanitaires. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Son décès a provoqué l'indignation ce week-end au Kenya et l'autopsie vient désormais contredire la version officielle. Albert Ojwang serait en fait mort des suites d'une agression. Ce jeune homme arrêté samedi passé après une plainte du numéro 2 de la police qui l'accusait de salir son image sur les réseaux sociaux. Il est décédé quelques heures plus tard, Albert Ojwang. Il se serait cogné la tête contre un mur de sa cellule, selon la police. Mais la version livrée par les médecins légistes semble bien différente, Alban Tiroir.
Les blessures ont été infligées par une force externe, explique l'un des médecins qui a pratiqué l'autopsie. Il décrit un traumatisme crânien, une compression du cou et des blessures réparties sur tout le corps, laissant penser selon lui à une agression. Des conclusions qui ne collent donc pas avec la version de la police. Plusieurs organisations, dont l'association kenyane des représentants du droit, appellent à ce que justice soit faite. Faith Odhiambo, sa présidente.
Les résultats de l'autopsie confirment ce que nous suspections après avoir vu le corps. Albert Ojwang a été torturé et tué avec brutalité lors de sa détention. Ils ont essayé de nous faire avaler une histoire mensongère, affirmant qu'il s'était tué en se cognant la tête. Nous voulons que tous les officiers de police impliqués soient tenus pour responsables.
Les officiers présents lors de la détention d'Albert Ojwang ont été suspendus. Les appels à la démission du numéro 2 de la police, Eliud Lagat, se multiplient. Il est derrière la plainte qui a mené à l'arrestation d'Albert Ojwang. Le père du défunt, très ému, lui a adressé un message en sortant de la morgue.
J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que vous avez tué mon fils? Qu'est-ce qu'il vous a fait qui nécessitait de lui ôter la vie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il vous a volé? C'est ce que je veux demander à Eliud.
La police des polices a annoncé avoir commencé son enquête. Elle a 7 jours pour soumettre ses conclusions. Albin Tiron, Nairobi, RFI.
Et c'est donc au Kenya que se referme notre journal. Mais notre matinale continue, bien sûr. Vous retrouvez Andréane Mélard.